Chers auditeurs, on reste admiratif devant tout ce que Mgr Dastros entreprit dès la première année de sa présence à Bayonne. Parmi ses initiatives, retenons en premier lieu celle qu'il prit le 18 septembre 1821 pour assurer dans cet immense diocèse qui comprenait encore 3 départements un nouveau regroupement des paroisses. Il créait pour cela 2 archidiaconés, 11 archiprêtrés et 83 doyennés. Les 2 archidiaconés, celui de Bayonne et celui de Pau, avaient à leur tête chacun un vicaire général et partageaient le diocèse selon les 2 régions ethniques et linguistiques du Béarn et du Pays basque. L'archidiaconé de Bayonne annexait le département des Landes et celui de Pau, les Hautes-Pyrénées. L'archidiaconé comprenait plusieurs archiprêtrés et le territoire de l'archiprêtré correspondait à celui de l'arrondissement. L'archiprêtré englobait plusieurs doyennés et le doyenné avait l'étendue d'un canton, nouveau nom des anciennes justices de paix. Ce nouveau regroupement des paroisses se contentait de reproduire sur le plan religieux les divisions administratives civiles. Son originalité était ailleurs. Dans son ordonnance, Mgr Dastros énumérait les pouvoirs canoniques qu'il déléguait à l'archiprêtre, qui était le curé donc du chef-lieu de l'arrondissement, et au doyen, qui était le curé du chef-lieu du canton. La délégation était valable pour leurs territoires respectifs. Cette organisation des paroisses révélait sans aucun doute le souci de Mgr Dastros de décentraliser l'exercice du pouvoir, de le rendre plus proche des fidèles. Ajoutons que cette organisation allait durer 1,5 siècle. Vite après son arrivée, Mgr Dastros annonçait et organisait la visite générale de son diocèse. Elle devait coïncider dans les paroisses avec la célébration de la confirmation. On peut cependant se demander dans quelle mesure, à partir de 1821 et au cours des 2 années pendant lesquelles il a eu à diriger un immense diocèse, il a pu le visiter dans son entier. Un de ses biographes nous dit qu'il passait régulièrement 50 jours en course au printemps et 50 en automne, ce qui fait 100 jours par an pour un diocèse qui ne comptait pas moins de 1500 paroisses. Il fera une seconde visite générale en 1828, mais alors son diocèse ne comprendra que le département des Basses-Pyrénées. Autant que visite du bon pasteur, cette présence de l'évêque constituait une sorte d'inspection des lieux. Il en avait averti ses prêtres. Il fallait en effet compter encore avec des habitudes prises pendant la Révolution ou même avec celles qui avaient été héritées de l'Ancien Régime. Certes, Mgr Loison avait œuvré à l'apaisement et à la concorde, mais la Restauration avait plutôt ranimé, voire exacerbé dans le clergé, les conflits entre les anciens jureurs et les réfractaires, et révélé qu'il existait toujours chez certains comme une nostalgie ou même un attachement à la constitution civile du clergé. Dans ce mandement de 1821, où il annonçait la visite du diocèse, Mgr Dastros s'adressait aux anciens constitutionnels. S'il en était parmi vous qui, après avoir dévié du sentier de la vérité durant nos années de persécution, de vertige et d'erreur, n'eussent pas encore condamné avec franchise leur égarement, qu'à notre arrivée, ils soient les premiers à nous ouvrir leur cœur sans que nous ayons besoin de les interroger, qui nous assurent spontanément de leur sincère retour à la sainte doctrine, afin que, réunis avec nous et avec tout le clergé fidèle, dans les principes de la vraie foi, nous vivions tous aussi dans l'heureuse union de la vraie charité. On a gardé la trace de la soumission que plusieurs prêtres constitutionnels firent de façon plus explicite qu'immédiatement après le concordat, soumission où ils disaient abjurer et abhorrer le serment et pleurer toute la vie sur l'infidélité commise contre Jésus-Christ et son Église. Monseigneur d'Astros était persuadé que la qualité de l'apostolat des prêtres dépendait pour une part de leur condition de vie. De plus, à l'égard des prêtres âgés et infirmes, il y avait une question de justice. Pour leur venir en aide et assurer leurs vieux jours, dès son arrivée à Bayonne, il établissait le 18 juillet 1821 une caisse d'épargne ecclésiastique. La vie matérielle des prêtres dans le ministère le préoccupait également. En vertu du concordat de 1801, l'Église ayant renoncé aux biens qu'elle possédait pour la subsistance des prêtres, l'écuré recevait de l'État un traitement approprié. Les desservants avaient dû attendre un certain temps pour recevoir de l'État une rémunération. Comme celle-ci demeurait insuffisante, il revenait aux communes de leur assurer un supplément. Mais étant donné la modicité des revenus de la plupart des communes, qui devaient en plus aider les fabriques à entretenir églises et presbytères, l'attribution des suppléments donnait lieu à des contestations et même à des conflits. Dès 1824, Monseigneur d'Astros va écrire au ministère des cultes pour demander un réajustement des traitements. Les pouvoirs publics trouvèrent ces demandes pessimistes et exagérées. Il intervint à nouveau en 1830 auprès du ministre pour demander que le traitement du curé soit porté à 1000 francs et celui du desservant à 600 francs. On pourrait ainsi ôter aux communes le souci de verser des suppléments. Le ministre reconnut que la demande et les remarques de l'évêque sur les suppléments étaient justes, mais la situation financière de l'État ne permettait pas l'augmentation des traitements ecclésiastiques. Monseigneur d'Astros veillait surtout à la vie spirituelle de ses prêtres et en premier lieu à celle de ses jeunes prêtres. Il établit pour eux et durant les 6 premières années de leur ministère un programme d'études sous la surveillance des doyens avec un examen dont dépendait le renouvellement de leur titre qui n'était valable que pour un an. Pour les aînés, Monseigneur d'Astros rétablit les conférences ecclésiastiques abandonnées depuis l'Ancien Régime. La conférence, nous le savons, était la réunion des prêtres présents dans un doyenné en vue d'une étude ou d'une réflexion commune. Elle devait donc se réunir une fois tous les 2 mois, de février à décembre, au jour fixé. Tout était minutieusement prévu dans le mandement de l'évêque, depuis la messe d'ouverture célébrée à 8 heures précises jusqu'au repas de midi qui devait être frugal et ne pas dépasser 1 heure. Dans le cadre de cette formation spirituelle des prêtres, Monseigneur d'Astros, le 18 juillet 1821, annonçait pour octobre l'organisation d'une retraite spirituelle à laquelle il invitait tous les prêtres de façon pressante. Si nous voulons ranimer la foi parmi les peuples, disait-il, il faut commencer par la ranimer d'abord dans nous-mêmes. Il y eut en réalité 2 retraites, une au séminaire de Bétharram et l'autre au séminaire de La Ressort. Elles furent prêchées par M. Boyer, un prêtre de Saint-Sulpice que Monseigneur d'Astros avait connu à Paris. Il faudra ensuite attendre 1827 pour que soit organisée une autre retraite spirituelle sacerdotale. Enfin, Monseigneur d'Astros voulut mettre à la disposition des prêtres pour assurer la prière publique un nouveau bréviaire. Jusque-là, les prêtres utilisaient le bréviaire publié par Mgr d'Arche en 1743. Les exemplaires en devenaient rares et les prêtres devaient souvent se servir de l'un des bréviaires des anciens diocèses quand ils en trouvaient. Mgr d'Astros pensa remédier aux inconvénients de cette pénurie et de cette diversité en faisant réimprimer l'ancien bréviaire de Bayonne auquel il apporta quelques modifications. Ce nouveau bréviaire devint obligatoire à partir du 1er janvier 1828. Nous verrons la prochaine fois l'action pastorale de Mgr d'Astros en faveur des séminaires et des écoles.